Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Paul Fournier avec moi, on est sur le site Le Rêve de l'Aborigène, quelque part près d'Hervaux, un site qui accueille pendant quelques jours un festival. Donc sur ce festival viennent se côtoyer différentes traditions. À la base c'était les Aborigènes d'Australie, ça avait été mis en place pour rendre hommage à ce peuple qui a connu les méfaits du colonialisme et de l'alcool notamment. Donc un festival sans alcool sur lequel différentes choses sont organisées. Donc il y a des conférences, il y a des concerts, il y a des expositions. Toi, tu as l'espace conférence. Donc Paul Fournier, je ne sais pas grand-chose de toi, mais si j'ai bien compris, il y a toute une histoire de voyage, notamment de rencontres avec les peuples. Donc je vais te laisser te présenter.
Tout à fait. Donc Paul Fournier, donc animateur socioculturel de métier pendant de longues années. Également contributeur de la fameuse revue Native, donc qui est spécifique justement au peuple premier. C'est le résultat d'un parcours et de rencontres, bien évidemment, de voyages qui a fait qu'on a fait naître à plusieurs cette fameuse revue Native. Alors je sors toutes mes casquettes, hein, parce que je suis multidimensionnel, donc je suis également co-organisateur du Rêve de l'Aborigène depuis à peu près maintenant, allez, on va dire entre 12 et 13 ans. Et donc du coup j'ai participé, si tu veux, à l'élargissement, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que au départ le Rêve de l'Aborigène était uniquement consacré au didgeridoo et à la culture aborigène d'Australie. Hein, les pères fondateurs, eux, avaient décidé d'entreprendre justement le voyage là-bas et quelques années après ont décidé d'installer de manière très intimiste, on va dire, le festival en lieu et place, donc à Hervaux. Et quelques années après, donc 3, 4, 5 ans après, il y a eu une volonté d'élargissement, en fait, de l'idée de faire venir des peuples natifs, ce qu'on dit natifs, aborigènes, de toutes les nations, de toutes les communautés des 6 continents. À ce moment-là, moi, je revenais effectivement de voyage, et je dirais de plusieurs voyages même, hein, puisque je traversais à cette époque le Canada, et j'étais parmi les seuls, à part un média qui était connu, avec un journaliste connu qui avait osé aller chez les Atikameks, les Algonquins, aller dans les grandes forêts boréales de Haute-Mauricie, au Canada. Je fus le second à vouloir pénétrer le confin des réserves pour aller voir ce qui s'y passait et voir les traditions amérindiennes algonquines.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a amené là-bas ? J'imagine qu'il y avait une sensibilité, peut-être une idéologie ou quelque chose qui t'a poussé à aller...
Ça va être très drôle. Ça va être très drôle de te raconter un truc. En fait, c'est l'objet même des écrits que j'ai fait par la suite, puisque j'ai édité un livre il y a 2 ans maintenant qui s'appelle « La levée du deuil, histoire Sioux ». Donc, dont je suis l'auteur, publié chez Aluna Édition, d'ailleurs, qui est d'ailleurs la même société qui gère la collection Aluna. Et j'ai ouvert cette collection sur les natifs, justement, parce que voyageurs. Donc, et ce qui s'est produit, en fait, c'est que cette chose-là, enfin, en tout cas, les cultures natives autochtones, et spécialement des États-Unis et du Canada, eh bien, sont venus me chercher, en fait. À l'époque, j'étais animateur socioculturel dans les Hautes-Alpes, région de Fraissinière, pour ceux qui connaissent Serre-Chevalier, ces régions-là, Gap, etc., dans une formidable vallée. Et moi j'étais compétiteur à ski, et je faisais tous les sports affiliés à la haute montagne, donc cascade, VTT, enfin, tous les sports extrêmes, enfin voilà. Et on a à côté, on a le lac de Serre-Ponçon qui est immense, qui est connu de l'Europe entière. Et là, on faisait des longues distances en planche à voile à l'époque, en windsurf. Et on était une équipe qui allait expérimenter la distance sur tous les parcours courts entre certaines villes et des îles. Comme c'est le cas, par exemple, en Adriatique, entre Zadar et Pag. On faisait des distances et puis voilà. Donc j'allais m'entraîner. Et il m'est arrivé la chose suivante, c'est qu'en fait... Je me suis trouvé à un moment donné en perdition sur cette mer de l'Adriatique, pris par une tempête, carrément isolé sur la mer, et du coup, eh bien, j'ai failli perdre la vie, tout simplement, quoi.
Tu as quel âge, là ?
Là, j'ai 68 ans maintenant.
Mais quand tu nous racontes cette histoire ?
Quand je raconte cette histoire, bon, c'est le tout début de l'histoire, bah, j'avais 27 ans, 28 ans. Donc voilà, donc ça a marqué ma vie, c'est-à-dire que vraiment ça a tranché, ça a été tranchant et ça a redonné du sens à tout ça. Et j'ai fait ce qu'on appelle, dans le verbe, une approche imminente de la mort. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai été repêché quasiment en hypothermie, le corps à 26 degrés, in extremis. Donc on a réussi à me repêcher, j'étais à la limite de l'embolie pulmonaire, et cependant j'avais pas suffisamment, heureusement d'ailleurs, avalé d'eau pour me noyer, et qui plus est, pour à la limite être hospitalisé. Ils ont réussi à me faire évacuer la flotte que j'avais dans les poumons, et pour le final j'avais tellement d'amour autour de moi que j'ai décollé. Comme il se passe dans une approche imminente de la mort. Et j'ai vu tous ces gens autour de moi en train de s'affairer pour essayer de me sauver. Et bien, j'ai passé dans ce qu'on appelle l'autre monde, quoi. Et j'y ai vu des choses qui étaient fantastiques en termes de, comment on va dire, de multidimensionnalité. J'ai pas d'autres mots parce que il faut vivre l'expérience pour pouvoir la commenter au plus juste. Et bien, en fait, j'ai vu des choses qui étaient plutôt de la beauté, de la sérénité, des couleurs qui ne correspondent pas, même à l'heure actuelle, je m'en demande l'origine, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à l'idée chromatique des couleurs qu'on peut se faire. Et là, j'étais dans un monde complètement différent. Et donc, j'ai été sauvé in extremis. Et ensuite, il s'est passé, donc, retour au bercail, parti dans cette si belle vallée de Fraissinière, une des plus belles vallées d'Europe, avec Saint-Véran. Donc, j'ai été un peu faire de la médite, quoi, tout simplement, pour essayer de me recentrer, me retrouver, comprendre ce qui s'était passé et prendre du recul. Et j'étais avec un des collaborateurs. Et là, je me balade, pof, le long de la rivière. Je lève la tête à tomber du jour. Et là, je vois un bloc granitique de plus 60 mètres de haut, magnifique, devant le soleil, tombant. Et le truc de ouf, je vois une tête, dans la vision du rocher, qui, face à la lumière, je vois une tête avec le profil d'un Amérindien, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mais là, il s'agit donc d'aller les rencontrer, créer le lien. Donc l'idée est née. Apparemment, tu as eu tous les curseurs qui étaient ouverts, le soutien du préfet, du maire. Donc là, il fallait partir maintenant aux États-Unis pour pouvoir aller rencontrer ces Premières Nations et puis leur proposer de venir en France pour un échange, c'est ça ?
C'est ça. Donc effectivement, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'ils m'accordent ce qu'on appelle des fonds d'entrée avec la DRAC, en particulier la Direction régionale des affaires culturelles. Et puis il me dit, voilà, maintenant t'as plus qu'à trouver, prendre des contacts, etc. Et le problème, c'est que je dis, ouais, mais c'est qu'on trouve pas des natifs d'Amérique sous la botte d'un cheval comme ça. Il me dit, oui, mais maintenant t'as le dossier, tu l'étudies, tu te débrouilles, etc. Et à l'époque, c'est vrai qu'en France, il y avait très peu de natifs d'Amérique du Nord qui circulaient. On voyait plus dans les campus littéraires, ou fac d'histoire, on voyait plus des gens qui nous venaient des hauts plateaux Bolivie, Pérou, Brésil, Argentine, Amazonie. Mais très peu de natifs d'Amérique du Nord.
Mais on va revenir sur le côté historique, parce que là tu m'emmènes dans finalement presque un rêve commun. Je crois que tous enfants, on a joué aux Indiens, on a tous joué aux cow-boys. D'ailleurs, on voulait plutôt être Indien que cow-boy. Dans l'imaginaire, l'Indien avec les plumes, c'est quelque chose qui est présent dans l'esprit occidental. Donc c'est vrai qu'on va peut-être revenir sur cette partie de l'histoire où là on parle aussi d'une forme d'ethnocide ou de génocide culturel à l'arrivée des Blancs sur le continent américain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette phase-là de l'histoire, et selon toi, pourquoi est-ce que nos imaginaires d'enfants ont été bercés par des mythes et des légendes amérindiennes ?
Alors effectivement, donc on sait tous qu'il y a cette mystification qui a été faite sur l'écran, déjà pour commencer, en noir et blanc, où on voit des maudits sauvages, on leur donne une connotation de miséreux, de sauvages, d'agressifs, donc et en plus tronqués par des acteurs blancs qui vont se revêtir d'habits d'indiens, et voilà, et déformer l'image initiale justement des Indiens d'Amérique, en tout cas sur l'idée qu'on peut s'en faire. Donc c'est complètement dévoyé en fait, quoi. Et là en fait ce qui se passe, donc maintenant je resitue au niveau historique, on est donc en 1990, d'accord, de manière temporelle, et là apparaît un film qui s'appelle Danse avec les loups, ok. Et ça rentre dans la mémoire très vite collective, parce que d'abord ils en ont fait deux options, une version courte, une version longue de 3 heures. Et c'est Kevin Costner qui, pour la première fois, je sais pas si tu te rappelles de ce film, qui pour la première fois fait apparaître des Sioux Lakota en tenue traditionnelle, mais cette fois-ci non mystifiée, et plutôt honorable, et plutôt majestueux, et plutôt beau, avec une présentation. Et pour la première fois, vraiment pour la première fois, eh bien on entend parler Lakota, c'est-à-dire la langue originelle traditionnelle des Indiens d'Amérique. En tout cas pour les Sioux. Et du coup, ça fait tomber le mythe. Et dans le même temps, donc je reçois un coup de fil de Grenoble, donc d'une jeune personne qui me dit, bah voilà, si tu veux voir un natif d'Amérique, il y a un gars qui vient de débarquer de l'Alliance internationale, qui a pris 4 mots de français en fait, et qui a décidé de trouver moyen d'avoir une rencontre pour établir quelque chose qui est historique et cérémoniel. Et je pense que c'est toi qui va être à charge de tout ça. Elle me dit, c'est ma vision. En plus, c'est une nana que j'aimais bien parce qu'elle était un peu clairvoyante aussi à l'époque déjà. Et donc, on descend à Grenoble. On fait la rencontre de ce personnage qui s'appelle Clark Whiteburn, malheureusement retourné dans les plaines depuis, et qui m'explique en fait le fameux massacre de Wooden Knee en 1890. Et là, il m'explique qu'en fait, 7 générations se sont succédées depuis le massacre de Wooden Knee. Alors pour le rappeler, ça a été le dernier grand génocide des nations amérindiennes, en particulier des Lakota, qui celui-ci a fait en gros 400 morts en quelques minutes, simplement parce qu'il y avait un jeune qui était sourd, muet et handicapé, et qui pour s'aider à marcher, puisqu'en plus il boitait, avait pris un vieux fusil chasse-pot français à l'époque, tout pourri, qui n'était même pas une arme, hein, tactique, qui marchait pas parce que c'était un truc à pierre. Et il y a un lieutenant de fédérale américaine qui, par intention, mal intentionné, a été agressif avec lui et lui a retiré son vieux fusil. Et comme il ne comprenait pas, donc ça c'est en 1890, dans le cercle, comme il ne comprenait pas, il s'est agité. Et derrière, dans ce que faisait le cercle naturel et minéral de cette zone où ils étaient encerclés et maintenus pour ensuite aller dans les réserves, eh bien il y a un jeune militaire qui était derrière une mitrailleuse Hotchkiss et qui a tiré sur tout le monde, y compris sur les deux lieutenants qui étaient là. Donc il y a eu plus de 400 morts en quelques... En quelques secondes, quoi. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, ça a marqué l'histoire. Ça a vraiment marqué l'histoire amérindienne. Ça a marqué toutes les 500 nations. Et donc, la nation Lakota portait le deuil pendant 7 générations consécutives. Et donc, j'en ai passé d'ailleurs le film hier. Ça s'appelle The Ride, hein, que je pourrais d'ailleurs représenter si vous voulez. Il est passé hier. Et donc, les anciens décident, le Lakota Treaty Council, le Conseil des Sages, le Conseil de la Fédération des natifs de cette région-là du monde, décide de lever ce deuil de manière cérémoniale et rituelle. Pour ce faire, ils s'y prennent même avant la sortie du film, puisqu'ils s'y prennent en 1986, et ce jusque pendant 4 ans, jusqu'en 1990. Et c'est ce qui en découle, la fameuse sortie du film Danse avec les loups, et tout ce qui va en découler par la suite, c'est-à-dire les premiers événements qu'on va voir en Europe et ailleurs avec eux. Donc du coup, c'est ce que m'explique Clark, et en fait, quand je le rencontre en face à face, il me regarde comme ça, avec son air stoïque et pragmatique d'un Indien, comme on peut l'imaginer, il me dit « You are my dream, you know ?» Je le regarde, j'étais un peu dépourvu, je lui dis « You are my dream too !» Et du coup, ok. Et puis on a parlé conférence, on a parlé débat, pour expliquer c'était quoi la démarche à ce moment-là des natifs d'Amérique, donc de venir en France. Et voilà l'explication. L'explication, c'est que la France était omniprésente aux États-Unis lors de l'époque de ce qu'on appelait la Grande Louisiane. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les trois quarts des Français qui allaient au loin, vraiment, sont donc rapprochés des réserves, donc du sud et nord en Lakota, en traversant la fameuse frontière géographique, parce que les Français, a priori, devaient être plus courageux que les Anglo-Saxons, donc ils ont été les rencontrer. Et ce qui a été sujet à des rencontres, et on le voit dans le film d'ailleurs, dans Danse avec les loups, et puis une forme de métissage, comme ça a été le cas avec les Cherokees, qui a permis, si vous voulez, une intrusion douce de ce qu'on appelait la colonisation française sur les Indiens d'Amérique. Et ça, ils l'ont pas oublié. Pourquoi ? Parce que la posture anglo-saxonne n'était pas du tout la même. Après, justement, que la Louisiane se transforme, et qui par loi, soumis à ce qu'avait décidé la reine d'Angleterre, eh bien, c'était pas la même posture, puisque les anglo-saxons amenaient les armes, l'alcool, les couvertures vérolées, enfin, la misère, quoi, en fait. Et donc, du coup, ils ont eu cette mémoire. Et donc, c'est pour ça que pour lever ce deuil, donc il fallait faire cette chevauchée, The Ride, qu'ils ont fait de 86 à 90, et pour le coup, en 90, ils ont décidé de le faire en territoire ennemi, c'est par définition et cérémoniel. C'est ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'on se doit le pardon mutuel, on se pardonne soi-même, on pardonne les autres, et on redémarre la culture pour les 500 nations, on la redéploie aux quatre directions. Et c'était leur volonté. Et en fait, j'ai même compris que c'était non pas seulement pour les 500 nations amérindiennes, mais c'était pour toutes les nations autochtones. Donc la République française se doit un petit peu de rendre et de mettre à l'honneur aussi ses natives. Et on va faire un dentaire symbolique de ce fameux territoire de Fraissinière et je sais la en plaisance au nom même de la République française pour les recevoir, etc., etc. Donc on a monté ce festival, effectivement, qui s'appelait le Rêve amérindien. Et du coup, ça nous permettait de recevoir des très tôt. Donc Clark, on avait fait une micro-tournée dans tout le sud de la France pour expliquer sa démarche. Et Clark est retourné en fait aux États-Unis pour, faire le retour de sa démarche et inviter plusieurs familles à venir nous rejoindre en France pour cette fameuse cérémonie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ok, mais là on parle essentiellement des Lakota. Mais quand on parle d'Amérindiens, c'est compliqué hein, de parler d'Amérindiens, sachant qu'ils sont nombreux, avec différentes cultures, différentes ethnies, différentes langues. C'est comme quand on parle d'aborigènes d'Australie. L'Australie, c'est aussi grand que l'Europe, et il y avait plus d'une centaine d'ethnies différentes, avec des langues, des traditions, des mythes différents, et d'ailleurs très peu jouaient le didgeridoo, ou le yidaki, l'instrument qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'imagine que là, c'est un peu pareil aux États-Unis.
Alors effectivement, ce qu'on peut retenir, par contre, c'est que, à propos des Lakota, si tu veux, ils sont, les seuls, vraiment, vraiment les seuls, à avoir, depuis vous donner, c'est ce que je disais juste avant, donc au départ de Fort Laramie, à avoir rejoint leur terre ancestrale. Or, toutes les autres nations, donc les 490 autres nations, puisqu'il y a 500 nations amérindiennes qui occupaient tous les territoires du Grand Est et du Grand Ouest, eh bien, eux ont été déportés, pour la plupart, déjà. Donc ça, il faut le savoir. Mais par contre, ils ont ce qu'on appelle un tronc commun. Comme d'ailleurs, on parlait de l'Australie et des aborigènes, effectivement, le tronc commun, c'est le didgeridoo, t'as compris. Eh bien, là, c'est pareil. Il y a un tronc commun qui va être d'abord le tambour, le chant, la tradition, la danse, le powo, ce qu'on appelle les powo, qui sont des réunions sociales et qui font, si tu veux, le dénominateur commun de tous les possibles entre les 500 nations. La petite note intéressante, c'est que l'idée de valeur chez eux fait que ces rencontres se font par la valeur justement de ce que représente dans l'histoire l'attachement qu'ont eu ces peuples à défendre leur territoire, tu le comprends bien. Donc du coup, effectivement, de ce point de vue-là, les Lakota ont été remarquables. Et c'est pas, je veux pas faire de prosélytisme hein, pour une nation ou pour une autre, c'est pas ça. Mais ils ont été repérés dans l'histoire pour ça, c'est-à-dire d'avoir une organisation stratégique, une forme de pensée très 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 organisée, et surtout une cohésion tribale beaucoup plus significative que certaines communautés amérindiennes n'avaient pas. Il y a eu aussi ce qu'on appelle les contraires, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les traînes autour du fort, qui, comme les Shoshonis par exemple, ont décidé de se rattacher à l'idée que le gouvernement fédéral, l'armée américaine, allait être les sauveurs et allait leur apporter. Donc tu vois, c'est même il y avait des dissensions, voilà. Les Apaches aussi étaient reconnus aussi pour être des guerriers intègres. Tu vois, vraiment intègre, et ces deux nations-là qui ont servi d'exemple à toute l'histoire amérindienne pour servir de phare et de repère. Maintenant, il y a un autre dénominateur commun, c'est la Chanompa, la pipe sacrée, d'accord. Et alors là, on rentre sur le flanc un peu plus spirituel, et ce qui les attache, c'est justement cette pipe sacrée. Et c'est les Lakota qui en sont les détenteurs, ok. Au travers d'un personnage que j'ai rencontré, qui s'appelle Arvol Looking Horse, et qui est le 19e porteur de la pipe sacrée, la Chanompa, d'accord, et qui, quand il a vu qu'effectivement le deuil est élevé, c'est lui-même qui a eu, en premier lieu, l'envie de venir me voir, me rencontrer, en m'expliquant qu'en fait que l'idée, c'était une idée globale et collective, comme tu le disais si bien juste avant, de pouvoir redéployer la culture, les cultures traditionnelles d'Amérique du Nord aux quatre directions.
Et qu'est-ce qui fait que le message est entendu ou reçu aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que nos regards se tournent vers les Premières Nations, vers les peuples autochtones ? Tu parlais avant de cette revue qui s'appelle Native. Aujourd'hui en Occident, qu'est-ce qui fait selon toi qu'on commence à s'intéresser ou à se réintéresser à toutes ces cultures traditionnelles ?
Alors ce qui est étonnant, tu vois, c'est comme tu le décris là, c'est des cycles en fait. tu vois, tout est rond pour eux, tout est cyclique. Et là, c'est ce qui se passe, en fait. Il suffit, si tu veux, d'une actualité qui soit tourmentée pour que l'inconscient collectif, de nouveau, se rappelle une certaine forme de sagesse. OK ? Donc, je pense que d'un point de vue psychosociologique, il n'y a pas un individu, quel qu'il soit, en Occident, qui n'ait pas cette référence, en fait, de cette fameuse, je dirais presque, sagesse imaginaire que représente l'aura des natives d'Amérique en général. On en voit bien les effets, d'ailleurs, sur le rêve de l'aborigène. Et ça, on l'a compris depuis nombre d'années, si tu veux. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont contribué à une image bienveillante, justement. Il y a plein de photographes qui ont commencé à partir de ce moment-là, à partir du moment où la culture pouvait se redéployer, si tu veux, eh bien, qui se sont immiscés à des reportages comme toi, comme d'autres, en photo sur les réserves, et qui ont franchi le pas pour, justement, rendre visible ce qui ne l'était pas. Donc, du coup, ça a impacté dès 90 plusieurs petites associations, dont la nôtre, et qui, celles-ci, ont pu fédérer, mutualiser sur différents festivals, différents rencontres, et bien plusieurs actions symboliques, certaines même, puisqu'il y a eu d'autres dons de terre qui sont redéployés en France, dans le Tarn, par exemple, mais spontanément. Tu as des gens qui étaient propriétaires de terrains, tu vois, des jeunes de cette génération-là, donc maintenant, aujourd'hui, ils ont, on va dire, des quarantenaires, quoi, cinquantenaires, et qui sont venus me voir au travers de l'association, qui m'ont dit, voilà, moi, ma terre d'héritage, c'est mon grand-père qui me l'a donnée, moi, je vais la donner aux Amérindiens. Donc, il s'est passé des trucs, à partir de ce moment-là, qui étaient fabuleux, quoi. Et donc, ça a réuni, alors, un autre versant aussi de ce qui règne dans l'inconscient collectif, en fait, à propos de cette image des natifs d'Amérique, ça réunit ce qu'on appelait les wannabes. Attention, c'est pas un jugement, hein, mais les wannabes, c'est je veux être. Et on a vu apparaître ces gens déguisés en Amérindiens, tu sais, européens, occidentaux, qui d'ailleurs fréquentaient à l'époque les mouvements hippies, les rainbows et des choses comme ça, et bien qui venaient nous rejoindre. C'est-à-dire que les premières manifestations que j'ai organisées, entre autres au rêve de l'aborigène et ailleurs, et bien là, tu trouvais des gens qui arrivaient avec chevaux, travois, enfin, en mode amérindien, avec les enfants, l'école mobile et tout. Et donc, tu voyais bien qu'il y avait déjà une sorte de dissociation entre le monde qu'on connaît et ce monde-là qui s'opérait, en fait. Hein. Donc, on tombait sur des gens qui étaient déjà, hors système, en fait, quoi. Donc, c'est pour ça, même dans ce cas-là, on les a respectés et on les faisait venir aussi quand ils le demandaient, parce qu'ils apportaient soutien. Lors des organisations, ils amenaient des tipis. Alors, c'est comme ça, d'ailleurs, que très tôt, donc, au rêve de l'aborigène, on devait être dans les années 2004-2005, mais moi, je me suis pointé, justement, avec ces personnages. Alors, certains étaient indianistes, et on a mis les premiers tipis sur le festival. Tu vois, et c'est pour te dire comment ça a impacté l'inconscient. Alors là, ce qui était intéressant, c'est que c'est vraiment descendu dans la matière, quoi. Et le fait que ça devienne visible sur ce festival, eh ben, ça a donné l'occasion non seulement de recevoir ces natifs d'Amérique, et ça a été le cas donc au rêve lors des premiers événements, et bien évidemment, et je me suis rendu compte, alors il s'appelait Théo et on est toujours... lui, il avait eu à peu près le même cheminement, le même parcours que moi, et lui, il avait débarqué d'ailleurs avec ses premières yourtes et des Mongols. Donc tu vois, c'est comme si, c'est drôle, mais c'est comme si l'inconscient collectif se retournait vers une image un peu plus tribale, un peu plus consciente, un peu plus sage. Donc c'est là, je pense, qu'on a commencé à voir les prémices de ce qu'allait devenir l'appréhension de ce qu'on appelait, de manière dévoyée d'ailleurs, hein, le chamanisme en France. Tu vois, parce que le chamanisme, en fait, c'est ni plus ni moins que la déformation du mot tsaman, qui celui-ci vient de Mongolie, c'est chez les... Donc voilà. Et ça a engendré cette idée du bien-être, de la sagesse. Enfin voilà, dans l'inconscient, on avait vu qu'effectivement, il y a quelque chose qui se mettait dans la matière pour un petit peu transmuter, transchanger, transcender le modèle qu'on nous proposait.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Oui, mais ça répond vraiment à un manque, à une quête de sens. Aujourd'hui, on se rend compte que voilà, le bonheur n'est pas matériel, ça on l'a compris, on l'a intégré. Et le spirituel, on l'a complètement évincé de nos vies depuis quelques générations, en tout cas de moins en moins, pour se concentrer vraiment sur le développement économique et matériel de nos vies. Et pour se retrouver dans une sorte d'homme coquille vide où on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. Et c'est vrai qu'on va chercher à l'extérieur souvent cette forme de sagesse, et le chamanisme ou le néo-chamanisme répond à ça. Et je pense que le message des Premières Nations, des peuples premiers, peut répondre à ça aussi à travers des sagesses ancestrales, notamment en lien avec la terre et l'environnement.
Pourquoi ? Parce qu'on est dans un changement de cycle, c'est ce qu'ils nous ont toujours dit d'ailleurs. Les petits frères blancs, vous allez vous réveiller, c'est nos prophéties qui en parlent depuis la nuit des temps, mais a priori vous n'êtes toujours pas compris quoi. Mais cependant on est là, et c'est important qu'on soit là justement pour vous le signifier, et vous signifier que le modèle naturel c'est un modèle circulaire. C'est pas un modèle pyramidal, il n'est pas hiérarchique. Si le pouvoir est au centre, vous allez, comme nous, être enfoncé dans un système qui va vous enfermer. Et c'est ce qui s'est passé pour eux d'ailleurs. Et en fait, si tu réfléchis un peu, tu vois que le système globalisé, mondialisé, pyramidal, enferme. Alors que le modèle circulaire se met en cercle, le pouvoir n'est pas au centre, mais par contre il se déploie. Donc, et c'est là que ça commence à tergiverser sérieusement en Occident, quoi. Ah, en disant peut-être qu'il y a une autre solution, il y a peut-être une autre porte à ouvrir, il y a peut-être... Et c'est simplement ça en fait. Tu vois, qui s'inscrit dans l'inconscient collectif, et ça passe aussi par le soin, t'as raison, parce que les gens, quand tu prends conscience de ça, c'est un savoir, hein. c'est un savoir, c'est pas une croyance, d'accord ? Ce sont pas des dogmes. Donc, qui fait que ça fait la différence. Et quand les gens commencent à capter ça, bah, tu vois qu'il y a une transmutation qui s'opère, et je suis de ceux qui pensent qu'au global, c'est ce qui va être déterminant. Je m'explique, ces gens-là, ce ne sont pas des gens du passé, c'est l'avenir de notre propre futur. Et c'est pour ça que c'est maintenant.
Mais si tu veux passer des messages, hein, des Premières Nations, de ces peuples racines, qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous ?
Ouais, eh bien écoute, c'est ça, le message de fond, c'est d'avoir, je le disais, une meilleure visibilité de tous les peuples autochtones. C'est ce qui nous a fait, moi en tout cas personnellement, évoluer vers quelque chose qui va être, on va dire, l'unité, l'unification des consciences, des pensées. C'est ce qu'ils désirent eux aussi, en fait. Et c'est surtout de mettre en avant, si tu veux, l'idée de la reliance, en fait. Et c'est pour ça que ce soit au travers de la nature, de la conscience et de tout ce qui nous entoure, autrement dit tous les règnes, eh bien de prendre conscience que c'est vraiment lié. C'est vraiment, on est nature, on n'est pas environnement. L'environnement, on le met autour de nous. Le vrai message, c'est nous sommes la nature. Et voilà ce qui en ressort. Et qui plus est, si on conjugue... justement ces savoirs, j'appelle ça des savoirs dimensionnels, parce que moi je reste dans le pragmatisme, si tu veux, en rationnel. Alors il peut y avoir des croyances, hein, chacun est libre d'avoir ses croyances, mais c'est des savoirs, et c'est des savoirs scientifiques. Alors je te donne juste un exemple avec Eric Julien, mon homologue Tchendoukoua. Aujourd'hui on fait des consultations de territoire, et bien ça a permis ça, c'est-à-dire de mettre des natives en consultation avec des scientifiques, des géologues, des gens qui travaillent sur le bioclimatisme ou des choses comme ça, pour faire de la consultation de territoire pour dire, bah écoutez, vos arbres là ils sont pas très en forme, la rivière non plus, voilà. Et après c'est des modes de comparaison, parce qu'en fait eux, ils ont une vision de tout ça est beaucoup plus élargie que la nôtre, moins pragmatique, et du coup, et puis avec une interreliance, je dirais presque vibratoire de reliance, qui fait qu'on a une autre vision de tout ça. Et je dirais, le message, c'est de comprendre en fait que on passe en gros du binaire, enfin de la compréhension binaire à une compréhension ternaire, qui est la logique même du cercle. Phi, enfin tu vois, donc, et ça rejoint tout ça, parce que c'est à la fois du rationnel, du pragmatique, du savoir. Et on sait pertinemment que les peuples, ce qu'on dit les peuples traditionnels, les peuples premiers, eh bien, c'est des peuples qui fonctionnent en mode ternaire. D'accord ? Je peux donner un exemple, c'est qu'ils ne sont jamais en dualité, ces gens-là. Alors que nous, on l'est tout le temps. Et en plus, on est tout le temps en train de nous opposer. Ceci, cela, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, l'autre t'es comme ci. Voilà. Alors qu'eux, ça n'existe pas. Le pouvoir est éjecté. D'accord ? Le pouvoir n'est pas central. Il est autour et il est en collège, il est en décision horizontale. Voilà, et ce qui fait la valeur de quelqu'un, elle n'est que transitoire aussi, puisque c'est dans le cercle, c'est quelque chose qui est une évolution, et non pas quelque chose qui amène à ce que j'appelle moi la stase, l'immobilité, qui fait qu'aujourd'hui, on a par exemple des gouvernants qui ne bougent plus, quoi. Enfin voilà, et c'est pas normal, enfin, je veux dire, dans la façon de d'accéder au pouvoir, ou en tout cas au fonctionnement même, de tout simplement de l'idée de faire société. Eh bien, c'est ça, c'est trop statique. Donc, c'est pourquoi, enfin, eux, ils pensent que ce monde, c'est sa fin, en fait. La fin de cycle est là, étant, et qu'il faut qu'on se réveille de ça. Et qu'effectivement, si on se relie aux prophéties, déjà d'une part, tout ce qui était prophétique, que ce soit les Incas, les Aztèques ou même les Lakrota, eh bien on retrouve ça. La question fondamentale et le message fondamental, je te le dis, hein, c'est clair, sommes-nous des êtres humains ? Point barre.
Et savons-nous vivre ensemble ?
Et savons-nous ensemble, puisque l'idée c'est ça, c'est faire société. Faire société. Et si la société demeure, eh bien c'est de passer à ce stade d'évolution qui, à mon avis, ouvre la porte, la grande porte de la connaissance et du savoir. Et ça, c'est pas des croyances, c'est pas des dogmes.
Donc là, on est sur le site du rêve de l'aborigène, donc il y a vraiment cette volonté, hein, je l'ai entendu, d'ouvrir, d'élargir et d'inviter chaque année des représentants des peuples différents, c'est ça ?
C'est ça, alors tu vois, ça a évolué d'année en année. Alors on essaye d'être le plus en conjugaison, si tu veux, avec la grande scène pour les musiciens, les arts traditionnels musicaux, qui sont teintés de toutes les couleurs culturelles. Et puis nous, on concentre sur l'espace chapiteau, conférences et villages associatifs, eh bien ces unions, ces échanges, ces débats, des sujets qu'on traite ensemble, et on tâche d'avoir des présentations pluridisciplinaires, pluriculturelles, et c'est ce qui se passe de plus en plus, parce que je pense qu'effectivement, c'est l'éthique même du festival depuis presque, oui, je te dis, 21 ans maintenant. Et voilà, et donc je pense que ce creuset-là, il le faut. Alors, curieusement, je peux te dire que je suis honoré déjà de le faire, c'est sûr. Mais au niveau énergétique, vibratoire, c'est la France qui va être déterminante dans tout ça pour justement révéler, je dirais, ces cultures originelles et traditionnelles. Donc ça évolue et j'en suis ravi. Et voilà, ça fait un centre énergétique vibratoire formidable d'échange. Et je pense que ça peut porter dans l'inconscient également ses fruits. Voilà. Et ça reste du rationalisme. Hein. Voilà.
Merci Paul.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.